Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi il ne faut jamais laisser les autres définir vos limites. Je fais cet épisode parce que au quotidien, je rencontre des personnes qui se laissent influencer par l'opinion des autres, leurs jugements, leurs croyances, et qui n'osent pas se lancer dans des projets, dans des études, dans un projet d'activité indépendante, dans une relation, etc. parce que quelqu'un dans leur entourage leur dit que ce n'est pas la bonne chose à faire, qu'ils n'en sont pas capables, que c'est trop difficile, etc. Et je pense que c'est capital de faire un épisode là-dessus parce que nos croyances, et surtout nos croyances limitantes, qui peuvent venir des fois de l'entourage, eh bien, elles ont un impact direct sur notre qualité de vie parce qu'elles vont influencer notre façon de voir le monde, nos décisions et du coup, ce qu'on va faire dans notre vie. J'ai fait une formation en ligne pour briser les croyances limitantes. Donc, c'est une formation sous forme de petites capsules vidéo où je vous guide au travers de différents exercices pour identifier vos croyances limitantes, voir dans quoi elles vous limitent dans votre vie, puis ensuite, voir comment est-ce que vous pouvez les assouplir, les modifier ou les anéantir pour vous libérer et puis libérer votre potentiel. Donc, si vous êtes intéressé à travailler là-dessus, je vous mets la formation dans les notes du podcast. Et oui, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je le vois au quotidien, des gens qui ont des projets superbes et qui sont tués dans l'œuf, soit par leurs propres croyances, soit par les croyances de l'entourage. Et finalement, c'est important de se rappeler que quand quelqu'un nous dit « tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile, ce n'est pas possible, c'est trop dur pour toi », eh bien, elle ne parle pas de nous. Elle parle de elle, en fait, quand elle nous dit ça. C'est-à-dire qu'elle est en train de nous dire « moi, si j'étais à ta place, je ne serais pas capable de le faire » ou « je trouverais ça impossible » ou « pour moi, ça ne serait pas possible de le faire ». Mais en aucun cas, elle parle de nos capacités. Et ça, c'est très important. Ça permet de recadrer et de se dire « ah ben tiens, en fait, la personne là, elle est juste en train de me donner des informations sur ses peurs à elle, sur ses croyances à elle, sur ses compétences à elle ». Moi, c'est quelque chose que j'ai pu vivre. J'ai eu un parcours un peu non conventionnel dans le sens où je me suis lancé comme indépendant sans être psychothérapeute. Je suis psychologue, mais pas psychothérapeute. Et il y a très peu de gens qui font ça, maintenant de plus en plus, mais en tout cas, à mon époque, c'était très rare. Et du coup, j'ai été confronté à plein de croyances comme ça, chez des collègues, chez des camarades de cours, chez mes proches, qui me disaient que c'était trop compliqué, que c'était pas possible, même des profs d'université qui nous racontaient ça. Et puis, heureusement pour moi, j'ai su ne pas les écouter, j'ai su persévérer, et puis en continuant, je me suis prouvé que c'était possible. Puis maintenant, je suis super heureux de pouvoir être indépendant, avoir mon cabinet, et puis que tout roule. Et ayant pu vivre ça moi-même, j'ai envie de pouvoir encourager les gens à passer outre ces croyances-là pour vraiment aller vivre leur vie, en fait. Il y a d'autres exemples de personnes beaucoup plus connues que moi qui ont su aussi passer outre ce genre de croyances. Je pense par exemple à J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Eh bien, c'est une femme qui a passé des années, je crois qu'elle a mis 7 ans pour écrire son premier livre. Et puis quand elle l'a présenté en fait aux maisons d'édition, personne ne la voulait. Elle était au chômage, en dépression, enfin vraiment, elle était dans une situation catastrophique jusqu'à ce que finalement un agent littéraire lui donne sa chance. Et puis il a eu du flair parce qu'aujourd'hui, cette femme, elle est milliardaire. Et Harry Potter, on connaît le succès que cela a eu et que cela a encore. Donc si elle avait écouter ses maisons d'édition, si elle n'avait pas poussé pour amener son projet jusqu'au bout, aujourd'hui, on ne la connaîtrait pas. Peut-être qu'elle serait même plus en vie si sa dépression avait continué. Donc, je trouve que c'est un superbe exemple. C'est le cas également de Stephen King, qui, pour son premier livre intitulé Carrie, l'a proposé 30 fois à des maisons d'édition. Et puis, chaque fois, il a été refusé. Et heureusement, sa femme l'a poussé à ce qu'il tente encore jusqu'à ce qu'il arrive à être publié. Et puis, Stephen King, c'est devenu un des auteurs les plus connus de la littérature anglaise moderne, en tout cas un des auteurs les plus populaires. Donc c'est un autre exemple aussi dans le domaine des livres, des romans, de l'importance de pouvoir arriver à passer outre ses croyances. Et puis bien sûr, en tant qu'ancien basketteur et fan de basket, je ne peux pas passer à côté de cette anecdote concernant Michael Jordan, qui avait été recalé de son équipe de lycée parce que soi-disant il était trop faible, trop petit, pas au niveau. Ben, ce coach de lycée doit s'en mordre encore les doigts parce qu'il a failli nous faire rater le plus grand joueur de basket de tous les temps. Donc heureusement, Michael Jordan ne l'a pas écouté. Il a poursuivi son rêve et puis il est devenu la superstar que l'on connaît aujourd'hui. Alors là, on a parlé de l'importance de ne pas écouter ou se laisser influencer par les croyances des autres, mais on va aussi parler de comment faire attention à ne pas nous transmettre nos propres peurs, nos propres croyances limitantes aux personnes autour de nous. Alors évidemment, je pense que c'est un idéal. On va de toute façon le faire, même sans le vouloir. Mais si on arrive à limiter la casse, ben, c'est une bonne idée. Une chose qu'il faut connaître pour limiter ça, c'est l'effet Pygmalion. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un peu ce qui va créer des prophéties autoréalisatrices. Une prophétie autoréalisatrice, c'est quelque chose qui n'existait pas et puis parce qu'on commence à le croire, va devenir réalité. C'est par exemple le cas des cracks boursiers. La situation économique peut être stable, mais s'il y a suffisamment de rumeurs que le marché va s'écrouler, eh bien, ces rumeurs, elles vont se répandre, les gens vont prendre peur, ils vont perdre confiance dans la bourse, ils vont commencer à vendre toutes leurs actions, retirer l'argent des banques, et puis ben là, effectivement, ça va créer un krach boursier. Alors qu'à la base, tout allait bien. Donc la simple croyance que le krach boursier pouvait arriver ou allait arriver, eh bien, ça fait que ça le crée. Ça, l'effet Pygmalion, c'est venu aussi d'études qui ont été faites dans le milieu scolaire, où il a été fait à l'époque des expériences sur des enseignants à qui on donnait une nouvelle classe, et puis de manière aléatoire, on leur donnait des informations sur les élèves, en disant ben, « telle personne, c'est un bon élève, il a des super notes, il se comporte super bien, puis telle autre personne, ah, ça c'est un mauvais élève, il a vraiment de la peine, etc. » Et puis, rien que le fait de mettre cette pensée dans la tête de l'enseignant, eh bien, on a remarqué que cela induisait des changements de comportement de sa part, c'est-à-dire que peut-être que l'enseignant va commencer à moins prendre du temps pour expliquer à l'élève qui est considéré comme mauvais, parce qu'il va se dire bah, « ça sert à rien, de toute façon, il est mauvais », alors qu'avec l'élève qui est considéré comme bon, il va prendre plus de temps pour expliquer, pour répéter, etc. Et puis, ben, à partir de juste cette croyance qu'un élève est bon ou mauvais, eh bien, ça va changer les comportements. Et du coup, ça va faire que, ben, en effet, si on prend moins de temps parce qu'on croit que la personne a de la peine, elle aura peut-être plus de peine que les autres. Puis au final, on va voir un vrai gap entre les élèves, alors que cette différence, elle n'existait pas à la base. Donc ça, c'est très important de s'en rendre compte pour éviter au maximum ce genre d'effet, et puis essayer d'être toujours un peu comme une page blanche, essayer de prendre les gens sans a priori, et je pense que dans le milieu de l'enseignement, c'est particulièrement important de chaque fois prendre les élèves, pas avec leur réputation, mais comme ils se présentent, afin de leur laisser aussi des deuxièmes chances ou des troisièmes chances, parfois, de faire une bonne impression et puis de changer, et de pas toujours être catalogué en tant que le bon élève ou le mauvais élève. Et puis, alors, j'aimerais terminer cet épisode sur une question qui me vient souvent. Quand je parle de ça, notamment en thérapie, les gens me disent « Mais oui, mais d'accord, mais comment est-ce que je sais jusqu'où ça vaut la peine de persévérer face à un objectif, par exemple ? Et quand est-ce que je vais savoir qu'en fait, non, je suis dans la désillusion, que vraiment mon projet, il est impossible, et que là, je suis en train de persévérer dans le vide et que je perds juste mon temps ?» Alors, c'est une très bonne question. Et ce qui est embêtant, c'est que la réponse est qu'on ne sait jamais. Ben, moi, je l'ai souvent raconté, mais dans mon lancement, dans mon activité indépendante, j'ai mis 3 ans et demi à 4 ans avant de vraiment commencer à avoir des clients. Donc, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, j'aurais pu arrêter et me dire ben, « c'est impossible, j'y arriverai pas ». Et heureusement, j'ai persévéré et ça m'a montré le contraire. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut jamais savoir. Ça aurait pu continuer sans fonctionner. Donc moi, la règle peut-être que je vous donnerai, enfin, mon avis là-dessus, c'est tant que j'ai du plaisir à faire ce que je fais, que dans mon processus de poursuivre le but que je poursuis, j'ai du plaisir, j'y vois du sens et que ça n'a pas un impact négatif ni sur ma santé, ni sur mes relations, etc. Eh bien, finalement, pourquoi arrêter ? Il n'y a pas de raison. Si ça me plaît ce que je fais, que ça n'a pas d'impact totalement négatif sur ma vie, ben, pourquoi ne pas persévérer et être patient ? Puis si ça ne donne rien, si j'arrive jamais à mon but, ben, peu importe quelque part, parce que le processus aura été plaisant. Par contre, eh bien, si tout d'un coup ça met de la souffrance, que ça a un impact négatif sur mes relations, que ça m'appauvrit, que ça me met dans une situation de précarité, etc., eh ben, là, ça commence à avoir un vrai impact négatif sur ma vie et peut-être qu'en effet, c'est le moment de me dire ben, là, en fait, je ne peux plus continuer parce que ça péjore trop ma qualité de vie. Donc ça peut être peut-être une réponse à cette question. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous remercierai encore plus si vous pouviez mettre une évaluation sur Spotify, sur Apple Podcasts. Laissez des commentaires, mettez des commentaires aussi sur YouTube ou peu importe où vous regardez ou écoutez ces épisodes. Ça m'aide énormément. Je ne vais jamais assez le répéter, mais c'est vraiment une aide énorme que vous pouvez me donner avec simplement deux clics. Donc je vous remercie d'avance et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.